France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Anouk Millot, Fanny Richet et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre, et la technique ce matin c'est Paul Guigues. Pas un soir à 20 ans où l'on ne s'endorme avec cette colère ambiguë qui naît du vertige des occasions manquées, écrivait Paul Nizan dans La Conspiration. Nous continuons cette semaine notre tour du monde des grands mouvements de jeunes qui se revendiquent de la Gen Z et se saisissent au contraire d'occasions précises pour exiger plus de justice sociale. Septième épisode au Népal.
Tous les citoyens népalais en ont assez de la corruption. Tous les jeunes quittent le pays. De plus, la récente interdiction des réseaux sociaux par notre gouvernement va à l'encontre de notre liberté d'expression et montre qu'ils veulent nous contrôler comme dans une dictature.
Je suis ici pour protester contre la corruption. La situation dans le pays est devenue tellement grave pour les jeunes. Nous étions ici hier pour participer à un rassemblement pacifique. Mais la police a décidé de recourir à la violence et a tiré des gaz lacrymogènes, puis des balles réelles.
Nous ne resterons pas ici plus de 6 mois. Quelle que soit la situation, nous assumerons nos responsabilités. Et nous nous engageons à passer le relais au prochain Parlement et au prochain ministre. Dans les jours à venir, nous devrons travailler en nous inspirant de la façon de penser de la génération Z.
Des bâtiments publics en feu, une ministre lynchée et des rafales de mitraille qui, comme la queue d'un dragon, envoient rouler des manifestants contre la foule compacte qui vient en sens inverse. Le 8 septembre dernier, à Katmandou, l'armée tire à balles réelles sur les jeunes en colère. 72 morts, plus de 2000 blessés. Le lendemain, le Premier ministre démissionne et l'ancienne chef de la Cour suprême, Sushila Karki, que l'on vient d'entendre, est investie pour prendre sa place par intérim. Au Népal, petit pays de 800 km de long, 200 de large entre l'Inde et la Chine, bloqué au nord par la chaîne de l'Himalaya, barré au nord, le gouvernement décide le 4 septembre d'interdire plusieurs plateformes et réseaux sociaux du type Facebook, X ou YouTube. La jeunesse népalaise, très connectée, ne comprend pas cette décision de censure, s'empare des rues et en profite pour exprimer une indignation plus générale contre les inégalités dans un pays toujours très structuré par le système des castes, contre l'instabilité politique qui demeure au Népal malgré la fin de la guerre civile entre monarchistes et maoïstes. Ces derniers avaient remporté les élections de 2008 après l'abolition de la monarchie. Mais depuis, l'instabilité politique est chronique, la corruption généralisée et les maoïstes n'ont pas tenu leur promesse de changement et de révolution permanente. La nomination de Sushila Karki semble avoir donné un peu d'espoir, mais les jeunes manifestants demandent une réforme en profondeur du système politique. Eux qui ont tellement vu leurs parents partir pour trouver du travail à l'étranger ne demandent pas mieux que rester vivre au Népal, mais y vivre bien. Bonjour Brigitte Steinmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, professeur et chercheur émérite de l'université à Lille, membre du Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, le CLERC, et membre attaché du CESA, le Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, dont vous êtes co-directeur Tristan Brûlé. Bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Et bienvenue à vous, géographe chargé de recherche au CNRS. Merci d'être avec nous dans Culture Monde. Vous connaissez très bien tous les deux le Népal et vous travaillez depuis longtemps sur ce pays. Brigitte Steinmann, un peu plus longtemps encore, puisque vous y allez depuis les années 80. Vous avez suivi en 96 l'insurrection maoïste. Vous qui travaillez donc depuis très longtemps sur ce pays, est-ce que vous êtes familière, si j'ose dire, d'une ambiance aussi éruptive à Katmandou, de violence des forces de l'ordre sur les manifestants et de violence des manifestants en retour ?
Cette question des modalités de la violence aujourd'hui est extrêmement importante. Disons qu'il y a des images qui ont fait croire que ce qu'on pourrait appeler l'incendie du Reichstag, l'incendie du Parlement par les manifestants, serait une forme plus radicale, plus symboliquement plus importante de la capacité révolutionnaire de cette génération. Alors, Je dirais qu'en réalité, il y a eu déjà des tirs à balles réelles. C'est pas nouveau au Népal. J'ai enquêté pendant pratiquement 5 ans, entre les années fin des années 90, 2000 et 2006, sur le maoïsme au Népal. Les jeunes à l'époque, c'était des jeunes qui étaient nés dans les années 80. Ils étaient embrigadés évidemment par le parti maoïste centralisé, dirigé de main de maître par ces stratèges de génie, entre guillemets, si l'on peut dire, qui s'appellent Pushpa Kamal Dahal, Baburam Batarai et tout un état-major aussi.
Qui auront des responsabilités plus politiques plus tard.
Bien là, évidemment, récemment. Voilà. Mmh. Et ils ont donc levé des combattants dans tout le pays, à partir de l'Ouest. Ces jeunes gens, en réalité, ont été victimes de la violence d'État la plus féroce qui soit. Je le sais, pour avoir enquêté aussi dans différentes parties du Népal à l'époque. Vous savez, à l'époque, il n'y avait plus de touristes au Népal. Hein. J'arrivais à l'aéroport, j'étais seule. Et j'ai vécu dans des villages qui étaient occupés. Et les jeunes gens étaient menacés d'être tirés à balles réelles sur des jeunes qui couraient dans la campagne lorsque la Népal Royal Army arrivait.
Parce qu'il s'agissait vraiment du début de la guerre civile entre maoïstes et monarchistes.
Alors c'était le début, mais ça a duré longtemps. Oui. Voilà.
Ça a duré longtemps, la guerre civile a duré jusqu'en 2006.
Elle a duré, disons que la résolution c'était en 2006, avec la destitution de la monarchie.
Mais là, ce que vous avez vu en 2025... Brigitte Steinmann,
alors, est-ce que j'ai vu en 2025, ça m'a rappelé beaucoup des manifestations des années 90. La fin du régime des panchayats et la restitution des partis politiques, qui a été très très violente.
Avec des bâtiments.
Alors il y a eu des bâtiments brûlés, mais à l'époque, effectivement, il y a un côté, si vous voulez, disparition des terroirs sacrés, si je pourrais dire, avec le fait que là, maintenant, des jeunes, ils s'en foutent complètement des gâteaux à la crème construits par les ranas, les dynastes ranas.
Ça ressemble à des gâteaux à la crème ?
Les gâteaux à la crème, c'est les grands bâtiments blancs que la dynastie des ranas avait commencé à construire, des palais, ce qu'on appelle les palais ranas, dans lesquels les différents gouvernements népalais se sont installés.
Je ne sais pas s'ils s'en foutent complètement, comme vous dites, Brigitte Steinmann. Bon, en tout cas, beaucoup ont pénétré dans les bâtiments publics, et y compris dans la maison d'une ancienne ministre des Affaires étrangères, avant qu'elle ne soit lynchée et son domicile incendié. Deux jeunes manifestants qui étaient à ce moment-là dans le défilé qui a pénétré dans cette maison l'ont raconté à France 24.
C'est par ici qu'on est entré. Il y avait des jeunes partout qui montaient et descendaient. Ça, c'est l'endroit exact où la ministre des Affaires étrangères a été battue. Elle saignait énormément et son visage était boursouflé. Et ils appliquaient du charbon sur son visage pour l'humilier. Dans nos maisons, nous n'avons pas toutes ces choses qui coûtent cher. Mais ici, nous avons vu beaucoup de choses de valeur, comme de la soie ou des objets importés et très chers, comme des habits, du vin, ou encore des objets de décoration plaqués or ou argent.
Les gens étaient vraiment en colère. Ils criaient que toutes ces choses leur appartenaient. Et en même temps, ils étaient euphoriques et applaudissaient. Ces personnes ont dirigé le pays depuis la fin de la monarchie, mais ils n'ont pas amélioré nos conditions de vie. En tant que représentants politiques, c'était leur responsabilité pourtant.
Tristan Brûlé, on a aussi vu les manifestants en septembre dernier s'en prendre à des tours dans des quartiers touristiques, déborder en fait les quartiers vraiment strictement gouvernementaux, là où tous les bâtiments publics sont peut-être concentrés. Je ne connais pas très bien Kathmandu, je ne connais pas du tout même, vous connaissez beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que cette révolte a été circonscrite déjà dans la capitale du Népal et qu'elle a débordé les simples lieux qui représentent le pouvoir.
Alors oui, c'est peut-être l'impression qu'on a pu avoir. Alors je pourrais pas vous donner des informations de première main, mais en effet, ouais, je pense que c'est un mouvement qui a été peut-être d'abord une première journée d'action qui a été planifiée, qui a été amplifiée par le fait que les réseaux sociaux étaient interdits entre-temps. Et puis, surtout, c'est la deuxième journée, en fait, le 9 septembre, où là, ça a vraiment encore plus débordé, étant donné qu'il y a eu, je crois, une vingtaine de morts le premier jour et 53 le deuxième. Et comme vous dites, alors, à l'échelle de Katmandou, je ne pourrais pas trop vous répondre, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu aussi des manifestations hors de Katmandou. Alors, que ce soit à Pokhara, Bharatpur, Itahari, dans d'autres régions du Népal, que ce soit dans les montagnes ou dans la plaine. Donc, en effet, c'est un phénomène qui n'était pas cantonné uniquement à Katmandou, mais peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui a permis justement de se diffuser à l'ensemble du Népal, ou presque.
Mais alors, pas l'intermédiaire des réseaux sociaux ou avec l'interdiction des réseaux sociaux, puisque les quelques jours avant, le 4 septembre, le gouvernement annonce qu'il suspend plusieurs plateformes. Bah, plusieurs, c'est 26 plateformes quand même, y compris les plus importantes. Brigitte Steinmann, est-ce qu'elle fonctionnait néanmoins? Comment expliquer que cette annonce-là a mis le feu aux poudres, même si en réalité, c'est loin d'être le cœur de la contestation?
Alors, je pense que ça a mis le feu à certaines poudres. Il faut raconter l'histoire de l'arrivée des technologies modernes. Voilà. Bon. Mmh. Années 80, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité dans les villages. Tout le monde est tranquille, les paysans regardent tranquillement passer les touristes qui font du rafting en haut des collines et ils rigolent et ils disent « Ah, la lumière arrive, l'électricité, etc. » Bon, on leur balance un développement à partir des années de ce qu'on appelle les années développementistes. Dans les villages, donc, il y a une transformation, on pourrait dire, des infrastructures, des bâtiments à coups de béton. Et puis, les populations ont quand même une conscience politique à ce moment-là. C'est le régime des panchayats. Peut-être je remonte, je vais essayer d'aller
vraiment, vite, oui, rapidement,
un raccourci dans la question du développement. Et l'arrivée de l'Internet, en réalité, est liée, bien évidemment, à quoi ? À l'électricité. Bon, si vous n'avez pas d'électricité, eh bien, même si vous avez un portable, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, ce qui se passe, c'est que dans cette mobilisation, pourquoi on dit qu'elle est localisée à Katmandou ? C'est parce qu'à Katmandou, la question de l'accès au réseau, elle, évidemment, elle est tout à fait... Elle est normale, enfin, normale, sauf quand il y a des coupures d'électricité. Mais lorsque vous êtes dans les montagnes et que vous êtes aussi enragé contre les inégalités, contre les difficultés pour émigrer, pour aller gagner sa vie ailleurs, etc., eh bien, à ce moment-là, évidemment, vous n'allez pas faire partie de cette génération Z qui serait la plus révolutionnaire aujourd'hui.
Il faut dire aussi, Tristan Brûlé, que c'est à Katmandou que se concentrent peut-être le plus les jeunes du pays, y compris ceux qui ont l'intention ou qui n'ont pas le choix que de partir.
Ouais.
Ils restent ici, ils sont dans la capitale. Bah,
déjà, en fait, ce qu'on pourrait déjà dire, c'est que le Népal est un pays très jeune. En fait, déjà, il faut presque peut-être partir de ça. Hein. Je crois que j'avais noté 50% ou 55% de la population en moins de 25 ans. Donc, dans les faits, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors, est-ce qu'il y a une concentration plus forte à Katmandou ? C'est-à-dire qu'à Katmandou, c'est une ville qui a explosé, la vallée de Katmandou, on va dire, pas juste la ville, qui a explosé à l'occasion du conflit maoïste, puisque énormément de gens sont venus se réfugier à Katmandou. Alors, ces gens-là sont venus se réfugier, sont restés, ont fait éventuellement des enfants, etc. Donc, on a vraiment une population qui est jeune et on a une population qui est attirée par le marché du travail de Katmandou et on a une population, et ça c'était assez frappant après quand il y a eu quelques portraits des morts, des jeunes qui ont été tués, c'est que Katmandou c'est un point de passage pour partir en fait. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent de l'extérieur, des campagnes, et qui vont passer un mois, deux mois, trois mois, le temps de faire leur visa, de faire toutes les démarches pour partir à l'étranger. Et malheureusement, dans ces jeunes, il y en a plein qui étaient en partance, dans ces jeunes décédés par balle, il y en a plein qui étaient en partance pour l'étranger, pour des études, pour le travail, etc. Donc, oui, une population jeune qui souhaite partir beaucoup.
Regardez, venez voir ce qui est écrit. Dorénavant, seuls les jeunes seront autorisés ici. Les politiciens corrompus seront expulsés. Vive le Népal, vive la génération Z. Il y a une idée fausse qui circule beaucoup dans les médias. On a dit que tout ceci est arrivé à cause de l'interdiction des réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. En réalité, il s'agit d'un mouvement de protestation contre la corruption et pour que la jeunesse accède enfin au pouvoir. Parce que vous savez, ces 35-40 dernières années, ce sont les 5 ou 6 mêmes personnes qui ont été systématiquement nommées Premier ministre de ce pays. Ils se succèdent et se remplacent les uns les autres.
Alors peut-être fait-on partie de ces médias qui font circuler cette idée qu'ils considèrent comme fausse, ce créateur de Génération Z Népal, Amish, rencontré par Arte le 26 septembre dernier à Katmandou. Néanmoins, c'est vrai que ces manifestations, elles ont explosé après l'annonce par le gouvernement qu'il suspendait donc ces plateformes sous prétexte qu'elles ne s'étaient pas enregistrées. On disait hier à quel point les jeunes philippins sont connectés aux réseaux sociaux. C'est aussi le cas au Népal où pour étudier, travailler, s'organiser, il faut avoir les réseaux sociaux, à condition, comme vous le rappeliez Brigitte Steinmann, d'avoir de l'électricité. Mais de quelles inégalités les Népalais sont-ils témoins sur ces réseaux? Parce qu'il y a une expression qui est née dans le débat public au Népal, ce sont les Népo Babies et ce mode de vie déconnecté qu'on voit sur les vidéos. De quoi s'agit-il, Brigitte Steinmann?
Bon, il s'agit de ce qu'on appelle, on appelait ça la jeunesse dorée, qui existe depuis longtemps. Le fils d'ailleurs du dernier roi en est un bel exemple, si j'espère presque caricatural. Donc ce qui circule aujourd'hui, si vous voulez, ce sont des images d'une sorte de faste dans lequel vivent effectivement les enfants des classes aisées, qui sont pas au gouvernement, et qui se manifestent par des démonstrations de... Voilà, alors il y a un événement qui a beaucoup frappé, c'était le mariage d'une fille d'un des dirigeants qui était tellement fastueux qu'on avait bloqué tout Bhaktapur, une des trois villes de Katmandou, la circulation n'était plus possible, voilà, c'est-à-dire pour célébrer une fête dans une famille riche, tout le pays était pénalisé. Ceci dit, ça, c'est pas nouveau non plus, parce que chaque fois que des gouvernants se déplacent à Katmandou, la ville est complètement condamnée, on peut plus circuler, etc. Bon. Mais là, le phénomène, c'est que, d'une certaine manière, on oublie aussi de parler de l'importance de faire des dons. Les cadeaux en question qui ont été montrés sur des images, en réalité, c'est des marques Vuitton, c'est-à-dire ces enfants recevaient des cadeaux absolument invraisemblables qui coûtent très cher. Mais en réalité, les cadeaux Vuitton, c'est déjà des marques imitées en Chine. Mmh. Et en réalité, c'est pas... Il y a une question de décrypter les images qui n'est pas encore... que les jeunes ne possèdent pas.
Donc peut-être que ce sont de faux sacs Vuitton, non, des contrefaçons
que... Je pense pas que les dirigeants investissent leur argent, plus d'argent dans les cadeaux Vuitton qui sont montrés dans les images que dans des investissements à l'étranger qui sont précisément la fuite de tous les capitaux qui devraient être destinés quand même au développement de la population.
Du pays. Il se trouve, Tristan Brûlé, ces écarts entre les jeunes népalais les moins favorisés et ceux des castes les plus aisés. Ces écarts ont toujours existé par définition quand on parle de caste, mais ces écarts se sont-ils creusés ces dernières années?
Oui, alors peut-être je reviens aussi un peu au départ. Le Népal est un pays jeune et le Népal est un pays pauvre. En fait, là, dans le dernier classement là du Human Development Index, il est 145e sur, je sais plus, 182 pays, quelque chose comme ça. Donc, c'est encore un pays pauvre. Et c'est vrai que c'est un pays pauvre, mais c'est un pays qui, depuis une trentaine, quarantaine d'années, commence à sortir, enfin, est sorti d'une certaine manière de la pauvreté, alors que il y a 30, 40 ans, c'était vraiment des niveaux de développement comparables aux États d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, il s'est élevé. C'est plus le Niger, c'est plus le Mali. Mais il y a encore quand même 20% de la population qui vit dans la grande pauvreté, donc avec un seuil de dépenses annuel inférieur à $500 par an, contre 50% à la fin des années 90. Donc il y a quand même une réduction de la pauvreté, mais il y a aussi une augmentation des inégalités. Voilà. Et on estime, alors ça, c'est assez difficile à voir, mais à connaître, mais qu'environ les 10% les plus riches auraient 40% de la richesse, posséderaient 40% de la richesse.
Pour replacer ces pourcentages dans un certain contexte quand même, le Népal c'est 30 millions d'habitants, ça reste pays. Non, je vous en prie, c'est moi qui ne l'ai pas précisé au début de cette émission, alors que le Népal est un pays dont on parle assez peu, il faut je crois repréciser tout ça. Les castes supérieures, entre guillemets, les brahmanes et les kshatriyas, occupent aujourd'hui l'essentiel des postes dans l'administration. Pourquoi?
Alors, c'est vrai qu'il y a en gros, on compte 12% de brahmanes, donc la catégorie considérée comme la plus élevée dans le système des castes. Et ces brahmanes occupent plus de 40% des emplois dans la bureaucratie. Alors, l'explication est assez... je ne sais pas si c'est direct, mais comme les brahmanes, c'est ceux qui ont eu accès aux livres, à la connaissance, à l'écriture, etc. depuis longtemps, hein, peut-être pas des temps immémoriaux, mais longtemps, et ben, ils ont... progressivement, et c'est vrai qu'ils avaient des niveaux d'instruction beaucoup plus élevés, un accès au pouvoir beaucoup plus facile par les réseaux de castes, et du coup, ils ont progressivement trusté, en fait, les boulots, je dirais, qualifiés dans l'administration, boulots qui peuvent être qualifiés de sorte de rente, en fait, hein, puisque c'est aussi une économie qui a été longtemps basée sur la rente de la part des propriétaires fonciers ou de la part des gens qui peuvent avoir accès à l'État.
Et donc ça s'est perpétué, puisqu'aujourd'hui, le Népal est une société alphabétisée, cultivée.
Ça s'est perpétué, mais les relations de caste ne sont pas vraiment améliorées. Mais en revanche, les taux d'alphabétisation sont énormément augmentés, quasiment toutes les jeunes générations savent lire et écrire.
Sauf qu'obtenir un de ces emplois, ça passe par les réseaux d'affinité, donc les castes, et puis il faut acheter sa place. Souvent, il y a un niveau aussi de corruption partout, quel que soit le parti dont on parle. Brigitte Steinmann, même les maoïstes qui luttaient contre la corruption en 90, oui, ont donné dans la corruption, oui, après la révolution.
Bon, alors oui, parlons de la corruption. La corruption est un instrument de pouvoir. La corruption existe, en réalité. On a de très belles démonstrations avec le roi Mahendra. Donc il faudrait parler, bon, vous avez l'histoire de la restitution des rois Shah sur le trône, qui a été faite par l'Inde, le roi Tribhuwan, dans les années 50, son fils Mahendra, qui va imposer un pouvoir absolu, qui va être à l'origine du système des panchayats. Le roi Mahendra, c'est un Trump. C'est le même système de corruption, c'est-à-dire
ça
la corruption. Il a non, je vais vous expliquer. Oui. Mais les Népalais ont eu leur Trump. Ils sont même plus forts, je trouve. Le roi Mahendra a imposé un pouvoir absolu. Il avait le pouvoir sur la justice, il avait le pouvoir politique absolu, il avait le pouvoir sur l'armée, et il a créé ce système des panchayats, un système représentatif, qui est devenu ensuite une monarchie constitutionnelle. Son successeur, c'est Birendra. Tous ces gens, bon, dire les brahmanes globalement, à mon avis, c'est un peu fourre-tout. Pourquoi ? Parce que Prachanda est un brahman, c'est un fils de brahman. Et il est un stratège révolutionnaire extraordinaire. Il est aussi, évidemment, un corrompu. On va dire, bien sûr, il est corrompu lui aussi. Mais il faut savoir que c'est eux qui ont inventé comment la corruption peut servir aussi à faire des révolutions. Révolution de palais. C'est-à-dire que Mahendra a éliminé des gens qu'il pensait corrompus. Qui étaient corrompus, c'était le parti du Congrès précédent. Toute la dynastie des Koirala, qui ont été mis en prison à ce moment-là, pour accusation de corruption. C'est comique.
En tout cas, Donald Trump, lui, a la légitimité des urnes, même si on peut le dépouvoir et des contre-pouvoirs.
Qu'est-ce légitime comme pouvoir aujourd'hui, maintenant, et cette question de la République népalaise, qu'est-ce que ça signifie?
En tout cas, si aujourd'hui ces postes dans l'administration sont trustés par une certaine catégorie de la population et donc pas accessibles à d'autres, et ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans les révoltes dont on parle depuis deux semaines en Culture Monde, il y a cette question de l'accès à l'emploi et l'accès aux emplois, notamment de l'administration. Alors si ce n'est pas dans l'administration, Tristan Brûlé, où les jeunes, toutes castes confondues, peuvent-ils trouver un emploi aujourd'hui au Népal ?
C'est vrai que là, c'est vraiment, on assiste vraiment un peu à un effet un peu, je vais pas dire pervers, mais négatif finalement du succès de l'alphabétisation au Népal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement toutes les jeunes générations savent lire et écrire. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont l'équivalent du BEPC, du bac, etc., s'ils veulent travailler. Et là, c'est là qu'on voit que absorber 400 000 personnes par an sur un marché du travail qui est vraiment anémique, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué individuellement, c'est compliqué pour le pays. Et comme vous disiez que finalement, l'emploi dans le secteur public est celui qui pourrait être le plus prisé puisqu'il est stable, puisqu'on va être payé tous les mois, puisque ça permet d'avoir un peu une perspective un peu assurée pour le futur. Ça, c'est bloqué. C'est difficile de rentrer dans l'emploi public. Donc, et le marché privé, le marché du travail privé est faible, il y a plein d'incertitudes, les salaires sont vraiment très bas. Donc la solution aujourd'hui que malheureusement la majorité des jeunes népalais voient, c'est l'expatriation, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit pour des études, qu'elle soit pour le travail ou qu'elle soit plus définitive. Et là, on parle d'une migration vers les pays de l'Ouest, par exemple, où il y a une possibilité d'installation.
Les migrations qui structurent vraiment le pays. On dit que, y compris dans les migrations, il y a des inégalités, que les plus riches, en général, vont en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Les pas trop pauvres, je reprends les termes d'un article dans Le Monde Diplomatique il y a quelques mois, de Pierre Dôme, qui disait les pas trop pauvres vont vers la Corée du Sud, la Roumanie et le Portugal. Et ensuite, c'est la Malaisie ou les pays du Golfe. Et tout en bas de l'échelle, l'Inde. Comment aujourd'hui l'émigration dessine et structure le Népal ?
C'est vrai que ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une vraie hiérarchie des destinations. Et ça c'est intéressant. Et c'est pas récent non plus. Le Népal a longtemps, les Népalais plutôt, les Népalais et surtout les Népalais en tant qu'agriculteurs, chose qu'ils étaient principalement jusqu'à maintenant, ils ont souvent dépendu de l'émigration pour survivre. C'est-à-dire, si la nourriture, elle était produite, mettons, 6 mois de nourriture était produite dans la ferme, et puis les 6 autres mois, on s'expatriait en Inde. Et c'est vrai que, donc, du coup, la tradition des migrations, sans parler des mercenaires gourkas dans l'armée indienne et britannique, elle est très, très présente. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus présente parce que on a l'impression, enfin, les jeunes ont l'impression qu'il n'y a pas de futur possible sans expatriation. C'est-à-dire que l'espoir, il passe forcément par l'expatriation parce qu'au Népal, vu un peu les aspirations des jeunes, ils ne pourront pas rester au Népal et atteindre leurs objectifs.
Vous parlez même de villages entiers où il n'y a plus de jeunes hommes, 25 à 35 ans, ils ne sont plus là comme dans un pays en guerre. Oui, Brigitte Steinmann, à ce sujet sur l'émigration, oui, qui reste un marqueur social presque au Népal.
Oui, il y a beaucoup à dire sur l'émigration. L'émigration est très ancienne. Il y a des émigrations saisonnières depuis très longtemps au Népal. Elles étaient saisonnières. C'est-à-dire que les Népalais allaient chercher des surplus dans les pays voisins. Donc il y avait une émigration en Inde, il y avait une émigration en Asie du Sud-Est, enfin dans les pays proches. Et voilà. Donc l'émigration massive, moi je dirais que c'est la faute des pays occidentaux.
Pourquoi?
Mais c'est la politique développementiste des années 60. C'est-à-dire que les pays occidentaux, à ce moment-là, étaient à la recherche de marchés. Dans les années 60, hein, grand boom développementiste partout aussi. Hein. Bon, il y avait les pays développés, puis les pays non développés, comme on disait, le Népal, les pays les plus pauvres du monde, la preuve, le produit national brut, etc. Ça voulait rien dire du tout. Il n'y avait pas encore d'argent qui circulait dans le pays. Qui c'est qui avait l'argent? C'était justement les dynastes, les aristocrates, etc. Et cet argent, ils étaient déjà investis ailleurs qu'au Népal. Donc, cette émigration, elle s'est recanalisée, si vous voulez, justement à partir de cette question d'inégalité, fabriqué par le système capitaliste, le capitalisme qui arrive au Népal quand même, largement à partir des années, moi je dirais entre les années 60 et les années 80, mais qui est aux commandes de ce système capitaliste? C'est ça la question justement. C'est les gens qui sont tout à fait capables d'embaucher tous ces ouvriers, et qui c'est qui les vend aujourd'hui? C'est le pays, c'est le Népal. Et là je vais quand même aller au secours de cette brave Sushila Karki,
qui vient d'être nommée
ministre de la Justice, qui occupe le pouvoir intérimaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette dame, elle a appris le droit en Inde. Hein, elle est partisante de paix, d'harmonie, etc. Mais qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle parle avec des maximes très intéressantes. Elle dit, mais il faut que les gens puissent rester au Népal pour travailler. Qui c'est qui les en empêche? Elle le sait, elle, qui c'est qui les en empêche? Mais je pense pas. Bon, voilà, enfin, on peut parler maintenant de l'avenir des prochaines élections.
Mais Tristan Brulé, il faut payer pour partir toujours aujourd'hui, alors que je crois qu'officiellement, c'est interdit de payer quelqu'un pour qu'il parte.
Ouais, alors c'est vrai que la question de la migration, elle se greffe aussi, enfin, sur des questions économiques, et le secteur de la migration est devenu un vrai secteur économique avec les entreprises, les intermédiaires,
oui, les
agents, etc. Donc, il y a énormément d'argent qui est en jeu. Et en effet, le Népal, enfin les différents gouvernements ont essayé de passer des lois pour que la migration se fasse de manière plus fluide, pour que les gens n'aient pas à s'endetter pour partir, parce que c'est le cas. Et en fait, ces lois ne marchent pas du tout, puisque tout est fait sous la table, en fait. Et donc, il n'y a que de l'argent.
Il faut rebondir sur l'endettement, c'est extrêmement important. Et,
la spirale de l'endettement.
Alors, l'endettement, c'est vrai que pour partir, la première fois au Népal, du Népal, il faut emprunter, je vais dire, 1 000, 1 500 euros, 2 000 euros.
Oh, alors, plus, pour les étudiants,
alors,
c'est plus.
Alors, oui, non, mais ça, je vais dire la migration de base vers le Qatar, pour avoir touché un salaire d'environ, je sais pas, 250, 300 euros par mois. Donc il faut, dans ce sens-là, acheter en fait son droit à pouvoir travailler au Qatar ou en Arabie. Et cette question de l'endettement, alors qu'il y a une question en effet qui parcourt les sociétés rurales depuis des décennies, elle est essentielle, puisque, juste un petit rappel, les taux d'endettement, les taux d'usure sont de 3% par mois. Donc, vous voyez que s'il y a un petit grain qui se met dans la machine et qu'on n'arrive pas à rembourser,
on peut plus rembourser les dettes.
Les intérêts augmentent, et là les familles se retrouvent dans la panade pour quasiment, une génération éventuellement, hein, si les emprunts sont pas remboursés, si la personne meurt à l'étranger, etc.
Brigitte Steinmann.
Voilà, Ça, c'est tout à fait intéressant. On touche un point crucial. L'endettement, donc, dans mes enquêtes sur le maoïsme, j'ai vraiment enquêté à la fois dans le village, où j'avais vu naître les jeunes qui étaient enrôlés dans les troupes maoïstes, etc. Qu'ont fait les populations pauvres, entre guillemets, celles qui restent pauvres, etc., et qui sont contraintes d'aller travailler à l'étranger. Elles sont d'ailleurs, maintenant, elles sont souvent plus riches, d'ailleurs, que nous, hein, les profs émérites à la retraite.
Hein. Ah bon, d'accord.
Non, bon, je plaisante. Mais disons que...
Dites-nous, la spirale de l'endettement.
La spirale de l'endettement, c'est un motif de revendication révolutionnaire réelle, très importante chez les anarchistes au Népal. C'est-à-dire que parmi les révolutionnaires actuellement, il y a beaucoup de Néwars, de ces populations les plus anciennes du Népal, qui voient leurs avantages de tous les côtés complètement détruits, grignotés par le capitalisme mondial. Et il y a la lutte contre le système de suppression des droits religieux, des goutis, ce qu'on appelle les possessions traditionnelles religieuses des populations, qui organisent en réalité toute la société, c'est-à-dire la commensalité, l'organisation des fêtes, la solidarité dans la société, etc. Or, cet État népalais totalement gangréné par des structures capitalistes qui sont même pas nécessairement dans le pays, s'attaque maintenant, si vous voulez, à ce qui a fait, je dirais, la richesse même de ce pays. Sa richesse sociale, sa richesse religieuse, sa richesse artistique, etc. Donc les Néwars, alors là, il y a des termes tout à fait précis pour parler de cette question de l'usure. C'est beaucoup plus que ce que tu dis, hein, 3%. Hein.
Bah, non, je crois que c'est... Déjà, c'est pas mal, 3%
par mois. Moi, j'ai des exemples de Népalais issus des populations pauvres, des Tamangs en particulier, qui ont réussi à se construire des immeubles, des hôtels, de tourisme, etc. Et pour construire leur hôtel, ils ont payé 15% d'intérêt aux banques.
15%.
15%.
Par an.
Oui, par an, alors peut-être.
Je suis à 3% par mois. Les taux
d'usure. Oui, alors effectivement, relativement, mais bon, ça dépend. Alors, ça dépend évidemment à quelle banque on emprunte, mais. Alors, cette usure, non, juste, je voulais rajouter. La lutte contre les usuriers, ça a été un des motifs des révoltes maoïstes dans les villages. C'est-à-dire qu'on a commencé à attaquer les usuriers. Les usuriers, à l'époque, c'était des gens qui avaient accumulé des pièces d'or. Et donc, il y a eu une attaque des usuriers en règle. Par les jeunes révolutionnaires, maoïstes, entre guillemets, il faut voir aussi ce que ça signifie selon les populations, et qui s'en sont pris vraiment à l'usure. Voilà.
Maoïstes qui donc ont pris le pouvoir, pour le dire vite, ils ont été élus après que le Népal a mis fin à la monarchie. Moi, je reviens rapidement à 2025, Brigitte Steinmann, pour réancrer cette discussion aussi dans les mouvements sociaux en cours et dire que les maoïstes, même s'ils ont eu le pouvoir après 2006, n'ont finalement jamais réussi à inverser la tendance. Ce que vous êtes en train de raconter persiste.
Non, bien sûr,
voilà.
Ils n'ont pas renversé la tendance, mais n'empêche quand même qu'ils sont conscients, vous savez, ils ne sont pas tout à fait idiots, hein, les chefs maoïstes. Hein. Ils avaient déjà lancé leur propre campagne sur les réseaux Internet. Je veux dire, ce n'est pas nouveau que la révolution se fomente, si c'est une vraie révolution. Hein. Ils l'avaient lancée à partir de modèles internationaux. Et donc, l'exemple de la dette, les jeunes anarchistes aujourd'hui savent très bien comment est-ce qu'elle est alimentée, comment elle fonctionne dans le monde. Et ils ont parlé, on compare le mouvement à Occupy Wall Street, par exemple. Alors, dans d'autres, peut-être pas au Népal directement, mais en tout cas, dans les autres pays, en Indonésie, c'est le cas. Hein. Donc, il y a des modèles de lutte révolutionnaire qui s'appuient, justement, sur cette question de l'écrasement par la finance.
Au début, le gouvernement a pensé, il ne s'agit que de quelques gamins, ils ne peuvent rien faire. Mais ensuite, ces petits gamins leur ont montré leur puissance. On le sentait arriver, pas seulement ces dernières semaines, mais depuis 2 ou 3 ans. Je savais que ça allait arriver et que ce serait violent. Dans ce pays, il n'y a pas de route, pas d'infrastructure médicale, pas non plus d'école publique. Des gens meurent parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter une boîte de paracétamol. Quand c'est à ce point dramatique que ça devient intolérable, la colère monte et on finit par laisser éclater notre rage. Aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on avait vraiment franchi les limites de la tyrannie. Maintenant, on va avoir une nouvelle génération au pouvoir, de nouvelles lois. On est heureux et ce n'est que le début.
Un manifestant rencontré par Arte qui dit qu'aujourd'hui il est heureux qu'il y aura de nouvelles lois. Apparemment, la nouvelle de la nomination de cette dame, Souchila Kharki, ancienne ministre de la Justice, ancienne chef, je crois aussi, de la Cour suprême, elle semble susciter pas mal d'espoir. Tristan Brûlé, qu'est-ce qu'on sait d'elle déjà, qui a été nommée première ministre le 12 septembre? Pourquoi est-ce qu'elle est censée apaiser la colère? Est-ce qu'elle a déjà contribué à le faire?
Alors, je crois que j'ai plutôt laissé la parole à
Brigitte Steinmann. Mais vous avez quand même entendu parler d'elle.
Oui, j'ai entendu parler d'elle, mais sur son passé, etc. Je ne peux pas trop vous dire. Le seul point positif, déjà, enfin, ou le premier, c'est que c'est une femme. Donc, première
et ça, c'est important au Népal.
Oui. Ah oui, non, il faut en parler, les femmes.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, les femmes au Népal, c'est à la fois des images de divinités tantriques. Vous savez, il y a les femmes qui sont dans l'hindouisme, il y a deux images de femmes. Il y a les matrikas, il y a les mères cruelles, dévoratrices de leurs rejetons, les divinités sanglantes.
Mais là, auxquelles... vous nous emmenez loin, je vous parle de la première ministre.
Oui, mais la première ministre...
vous faites peur, Brigitte Steinmann.
Non, la première ministre, justement, c'est une image plutôt de paix, de justice. C'est la bonne mère qui dit aux enfants, mais écoutez, quand même, je vais veiller sur vos intérêts, mais restez tranquille. Bon, elle connaît les arcanes du gouvernement.
Qu'une mère, elle est une brillante intellectuelle,
mais,
juriste.
Mais oui, c'est une brillante juriste. Hein. Mais alors, qui sont... Alors, justement, les femmes. Il y a une première présidente au Népal, Devi Bidya Bhandari. Il faut savoir que dans le système népalais, les présidents sont juste des figures. C'est pas du tout ils n'ont absolument aucun pouvoir. C'est juste un pouvoir représentatif, si vous voulez. Et ceux qui gouvernent, c'est le Parlement. Donc la nouvelle constitution de 2015 au Népal, hein, qui a établi justement un système parlementaire bicaméral avec deux chambres, chambre haute, chambre basse, etc., qui s'appuie aussi sur des représentants politiques dans le pays, etc. Bon. Donc elle a été nommée, comment est-ce qu'elle a été nommée? Elle a été nommée sur un référendum sur Internet aussi. Qui a voté?
16 000 personnes, je ne sais plus.
Non, on dit 200 000, je crois.
Ah bon.
Non, mais comment est-ce qu'on... Oui, non, mais voter avec un téléphone et aller aux urnes, c'est deux processus très différents au Népal, hein, ça s'est déjà produit. Voilà, bon, bref, il fallait un intérim, et il y a qu'elle qui pouvait le prendre, évidemment, puisqu'elle est une image, justement, de paix, on rassure tout le monde, regardez, on va mettre une femme au pouvoir, vous voyez, c'est pas les femmes, a priori, qui vont...
ordonner à l'armée de tirer les enfants.
Oui, bien que, bon, il y a eu pas mal de femmes engagées dans les troupes maoïstes, hein, qui, avec des fusils, etc. Bon, elles sont tout à fait capables de le faire. Mais disons que là, c'est une figure féminine. Et avant elle, il y a eu aussi quand même une présidente, hein, Bidya Bhandari. Bon, Devi Bhandari. Et elle était, elle est dans le gouvernement de Kipi Oli, hein, de Kelka Prasad Oli. Celui qui est... Alors, qui c'est Kelka Prasad Oli? C'est celui qui est parti au ciel sous un hélicoptère.
Et c'est-à-dire, j'ai pas compris. Il a fui.
C'est le Premier ministre.
Le Premier ministre qui a fui.
Ah, c'est le Premier ministre, si vous voulez, que l'armée est venue chercher avec un hélicoptère et pour. Il a eu tellement peur, sa maison a été vandalisée, c'est vrai, effectivement. Et il est parti au ciel. On sait pas trop, peut-être qu'il est allé.
C'est une image, alors, il n'est pas mort. Hein.
Oui, non, voilà, non, c'est ça, non, c'est pour ça que j'avais pas compris.
Je plaisante parce que non, c'est les Tibétains qui pensaient que les rois repartaient au ciel avec la corde mue au sommet de la tête. Donc il a évacué les lieux, voilà, mais elle est dans ce gouvernement et de toute façon, il se passe le pouvoir. Voilà. Donc ces femmes sont des. Moi je dirais que pour l'instant, elles sont des médiums, si vous voulez, d'un pouvoir qui continue à se concocter en réalité dans les grands partis anciens, le parti du Congrès. Qui est toujours là, évidemment, les vieux parlementaires, et puis les nouvelles forces de gauche qui essayent de s'allier en ce moment. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est cette frénésie maintenant de ralliement des forces de gauche diverses sous la houlette du Parti communiste central, qui est toujours dirigé par Pushpa Kamal Dahal.
Figure de la guérilla maoïste.
Celui qui a dirigé la guerre maoïste. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de recapturer ces forces de gauche. Ça ressemble un peu à ce qui se passe en France en ce moment.
Vous faites beaucoup de comparaisons, Brigitte Steinmann, avec ce qui se passe un peu partout. Vous connaissez le Népal depuis vraiment très 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 longtemps. Tristan Brûlé, qu'est-ce qui peut devenir le mouvement social et populaire du Népal? Est-ce qu'il peut se laisser confisquer le pouvoir si finalement tout ça ne... je crois que les prochaines élections sont prévues pour mars prochain, donc si finalement tout ça recommence, est-ce qu'il s'est construit, est-ce qu'il s'est structuré?
C'est vrai que c'est la question de la confiscation des espoirs, en fait. Elle est vraiment importante. Parce que depuis 1990, en fait, depuis le rétablissement de la monarchie, il y a vraiment la démocratie, il y a vraiment une volonté, et de plus en plus depuis 2008, d'inclusivité, que tout le monde participe à l'État, une volonté d'inclusion, une volonté de fédéralisme.
Y compris de ceux qui ont émigré, ils peuvent voter, par exemple.
Alors là, c'est une question qui est posée justement, et c'est vraiment un peu le serpent de mer depuis des années, justement, voyant qu'il y a 2 à 4 millions de personnes qui habitent en dehors du Népal et dont 80 ou 90% sont des hommes entre, je vais dire, 20 et 35 ans. Bon, on a toute cette population active, mais aussi cette population qui pourrait être décisionnaire en matière politique, qui habite en dehors du Népal et qui n'a pas le droit de vote. Alors, ils ont promis que d'ici mars, ils mettraient en place des structures pour que les personnes établies à l'étranger puissent voter. Bon, on verra parce que c'est pas du tout sûr. Mais en effet, c'est quand même un point important de voir que un ménage sur deux a un migrant et ce migrant ne vote pas, quoi.
Un ménage sur deux a vu quelqu'un de sa famille, un membre partir pour, en effet, qui ne vote pas, mais qui verse beaucoup d'argent. En tout cas, dans le PIB du Népal, ça représente une certaine somme.
25 à 30%. Donc c'est énorme, c'est 11 milliards d'euros par an qui arrivent du Népal.
Népatia, c'est un groupe népalais qui chante ici « Levez-vous des villages, levez-vous des bidonvilles, levez-vous pour changer le visage de ce pays ». C'est ce qu'il chantait en 2018 et c'est à cette invitation qu'ont répondu des dizaines de milliers de jeunes népalais en septembre à Katmandou pour manifester contre les inégalités et l'instabilité politique qui ne peut rien créer à long terme. Outre les grandes mobilisations populaires qui restent assez sporadiques au Népal, il existe dans ce pays un outil juridique pour faire avancer les droits. Ça s'appelle les litiges d'intérêt public.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les litiges d'intérêt public créés dans les années 90 par des juristes formés en Inde, où ce type d'outil existait déjà, ils permettent à la société civile de contourner l'arène politique à proprement parler, pour faire avancer des causes qui concernent les droits des femmes, les droits des intouchables ou des personnes LGBT, les droits humains en général. Bonjour Barbara Bérard-Ditadier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheuse associée au Centre d'études himalayennes du CNRS. Comment fonctionnent ces litiges d'intérêt public? D'abord, qui peut s'en emparer? Qu'on comprenne vraiment comment ça marche.
Alors, cela dépend des pays. Au Népal, les contentieux d'intérêt public, qu'on appelle « public interest litigations », permet de saisir à la cour à tout citoyen ou association pour dénoncer des violations des droits fondamentaux ou pour défendre des causes d'intérêt public. Disons que dans une perspective juridique, ils sont définis comme contentieux stratégiques car leur objectif est de provoquer un changement des jurisprudences ou de faire évoluer les droits en réponse à des préoccupations collectives, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour qu'on comprenne bien quelles pratiques et quelles lois au Népal ont évolué par des litiges d'intérêt public portés par des groupes ou des associations?
Oui, bien sûr. Disons que ce qui est intéressant dans une perspective anthropologique, c'est que ces contentieux apparaissent comme une forme des technologies sociales, c'est-à-dire comme un ensemble des savoirs et des pratiques grâce auxquelles les militants essayent de déclencher des changements sociétaux. Il a eu différents développements. Tous les droits de l'environnement au Népal, par exemple, a été bâti, pour ainsi dire, à coup des contentieux stratégiques. Mais probablement, les développements les plus spectaculaires, c'est dans les domaines des droits des genres. Mmh. C'est là que nous assistons vraiment à l'application concrète de cette technologie sociale. En particulier, donc, cela a commencé avec une affaire connue sous le nom d'Emira Dungana, qui était relative aux droits d'héritage et des propriétés des femmes. Et ce contentieux a pu déclencher un effet domino qui a transformé en profondeur toute la législation népalaise relative aux droits des femmes, par exemple. Il est aussi également à l'origine du mouvement pour la justice des genres au Népal. Mmh. Il met en question un droit humain par excellence, celui de l'égalité entre hommes et femmes.
Par exemple, Barbarie Bérard-Dittadier, au départ, ça date de 95, ce litige d'intérêt public qui concerne les femmes et leurs droits d'héritage et de propriété. Mais si j'ai bien compris, au départ, il a imposé de modifier le statut juridique des femmes, mais c'était un succès en demi-teinte. Mais comme on en parlait tellement dans tout le Népal, les appareils politiques ont été obligés de s'en saisir. Et c'est comme ça que le droit de propriété a été inscrit dans la Constitution pour les femmes, qu'il y a eu des évolutions qui concernent le divorce, le droit à l'avortement, donc des réactions en chaîne. Autre exemple, Barbarie Bérard-Dittadier, c'est les Dalits, donc la caste dite inférieure. Les Dalits ont porté un litige d'intérêt public pour avoir le droit d'accéder au temple. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que la justice a décidé que les Dalits pouvaient accéder au temple, tous les Dalits qu'ils souhaitent dans tout le Népal ont eu accès au temple? Est-ce que la pratique suit toujours ces litiges d'intérêt public?
Absolument pas. Non, absolument pas. On a des droits qui ont légitimé, si vous voulez, des pratiques qui étaient préexistantes. Et donc là, on a eu un véritable avancement. Je parle par exemple du droit à l'avortement. Donc là, on a eu vraiment un énorme avancement. Tandis que quand il s'agit d'aller contre des pratiques existantes, la situation est différente. Donc si les Dalits avaient les droits d'accès au temple, en réalité, ces droits n'étaient pas reconnus, si je peux dire, sur les terrains. Et donc, il a fallu beaucoup d'autres batailles, etc. Et ce n'est pas encore une bataille gagnée pour les Dalits, comme pour beaucoup d'autres droits qui les concernent.
Vous avez d'ailleurs vu dans certaines régions conservatrices qui n'ont pas appliqué ce droit que les Dalits impriment le jugement et le montrent à l'entrée, oui, pour dire regardez.
Exactement, voilà. Exactement. C'était étonnant de voir que certains Dalits, surtout ceux qui étaient, disons, en contact avec des associations de la société civile Dalits, et donc qui avaient eu connaissance de ces jugements, l'imprimaient et ils se rendaient au temple et montraient, quand ils étaient interdits d'entrer, ils montraient les jugements lui-même et montrant qu'ils avaient tout le droit de rentrer. Et donc, il a eu aussi des actions éclatantes avec des comités, des Dalits qui brandissaient ces documents et qui entraient en force dans les temples. Donc, on peut dire que c'est une forme de changement social qui a démarré. Là, les développements sont encore assez renforcé, si vous voulez, mais en tout cas, ce sont comme pour les femmes, les développements de ces contentieux sur les droits des femmes, les droits à la propriété et les autres droits ont été quand même très importants et probablement la chose la plus importante, ce qui est l'ensemble de ces droits, que ce soit sous les Dalits ou bien sur les femmes, ils ont été intégrés à la nouvelle constitution de 2015. Donc là, ils ont été consacrés par la constitution et c'est énorme. Et par exemple, aussi tous les droits sur la santé reproductive des femmes ont été intégrés à la constitution, tous les droits d'accès à l'héritage, à la propriété, les quotas pour l'accès dans des positions administratives, etc. Donc, parfois, ce sont des victoires plus symboliques que réelles, ils ont déclenché un processus qui s'est poursuit, disons.
Et on entend bien aussi, à vous écouter, Barbara Bérard-Dittadier, que ça ne cible pas seulement un problème, mais un système qu'à l'origine, ces litiges concernent une question en particulier et que ça devient système en quelque sorte, que ça vise un changement de règles du jeu. Ces contentieux stratégiques existent au Népal depuis les années 90, y compris pendant la guerre civile de 96 à 2006. La justice a continué, me semble-t-il, à statuer sur ces litiges. Peut-être un mot pour savoir s'ils ont joué à cette époque et s'ils jouent toujours un rôle de contournement du politique en quelque sorte et qui permet d'éviter ou de se soustraire de la polarisation quand elle existe, la très forte polarisation politique.
Disons que ce sont des contentieux qui, comme d'autres stratégies de la société civile au Népal, la caractéristique la plus intéressante, c'est que toutes ces actions, qu'il s'agit d'actions en justice ou bien d'autres types d'initiatives de la société civile, les dénominateurs communs sont toujours les mêmes. C'est la tentative de renégocier les hiérarchie sociale et les rapports de pouvoir en dehors des partis politiques traditionnels, qui sont perçus par un nombre croissant des citoyens, et je pense au Népal comme ailleurs, comme incapables de répondre aux besoins sociaux et aux défis de notre temps. Et donc c'est pour ça que les Népalais et les associations qui ont porté ces affaires en justice ont considéré la Cour suprême comme une façon de détourner l'inaction du pouvoir législatif et de l'exécutif.
Merci. Et voilà. Oui, merci beaucoup Barbara Bérardi-Tadier, chercheuse associée au Centre d'études himalayennes. Vos travaux sur la société civile népalaise feront bientôt l'objet d'un livre à apparaître début 2026 tiré de votre thèse. Merci d'avoir été avec nous. Brigitte Steinmann, vous écoutiez, et vous aussi Tristan Boulet, très, très attentivement ce que disait notre invité. Et ça vous semblait important de conclure sur le rôle du tissu associatif justement évoqué par Barbara Bérardi-Tadier, le tissu associatif, les ONG au Népal aujourd'hui.
Ce que Barbara vient d'expliquer est fondamental par rapport à la question des droits des femmes, c'est-à-dire qu'il faut les inscrire justement dans la Constitution. Bon, maintenant l'application sur place. Alors moi évidemment j'ai pas pu continuer à enquêter sur le même rythme que j'ai pu faire les années précédentes, mais mes étudiantes ont enquêté beaucoup dans les ONG justement. Et un des éléments les plus libérateurs pour les femmes, ça a été la création d'archives du mariage. Et où on a pu constater effectivement que maintenant il y avait une possibilité de mariage intercaste, interethnique, qui commençait à se développer beaucoup, ce qui était absolument impossible quelques années auparavant. Donc, c'est-à-dire, il y a eu vraiment une sorte de libération d'une certaine manière. Et puis, le droit d'hériter aussi. Ça, c'est tout absolument fondamental.
Pour conclure, on arrive à la fin de cette émission. Pardon, Tristan Brûlé. Dans le mouvement du mois de septembre, est-ce que les ONG, les associations ont joué un rôle? Et notamment, toutes ces associations qui s'étaient créées en 2015 lors du grand séisme au Népal qui avait fait 10 000 morts. Il y avait des associations qui étaient nées. J'ai l'impression qu'il y a une continuité aujourd'hui dans le mouvement.
Alors apparemment, oui, il y a notamment une association qui s'appelle Hami Népal, et donc dont le dirigeant Sudan Gurung fait partie de cette Gen Z, et il a été en discussion avec les hommes politiques. Donc oui, il y a apparemment une poursuite de l'action de cette ONG qui était plutôt à but humanitaire au départ, et qui maintenant ont des revendications politiques.
Qui se disent, même si elles se disent apolitiques, mais qui souhaitent faire de la politique autrement, entre guillemets. Merci beaucoup à vous deux d'avoir merci. Été avec nous dans cette émission. Brigitte Steinmann, Tristan Brûlé, merci. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Vietnam, Catherine, construit des îles artificielles pour contester l'emprise de la Chine sur une voie navigable stratégique.
Dans les eaux turquoises de la mer de Chine méridionale, le Vietnam a construit une série d'îles artificielles fortifiées à partir de rochers, de sable, de récifs de roches extraites du fond de la mer, décrit le Wall Street Journal, et ce afin d'étendre son influence, notamment dans les îles Spratly, un archipel où les revendications de Hanoï entrent en conflit non seulement avec celles de Pékin qui tente depuis des années d'affirmer sa souveraineté en mer de Chine méridionale, rappelle le quotidien taïwanais japonais Taipei Times, mais les ambitions du Vietnam entrent aussi en conflit avec celles de Taïwan, des Philippines, de la Malaisie et de Brunei, note le Wall Street Journal et CNN. Ces 21 nouvelles îles vietnamiennes sont militarisées, titre le quotidien sud-coréen Chosun Daily. Elles abritent notamment des ports, une piste d'atterrissage de 3 km de long pouvant accueillir de gros avions militaires, de vastes entrepôts de munitions, des tranchées défensives pouvant accueillir des armes lourdes, ajoute le Wall Street Journal, image satellite à l'appui. Le Vietnam est confronté à des forces hostiles, insiste le journal vietnamien Tan Nien. La mer et les îles constituent donc une ligne de défense essentielle pour protéger la patrie et il faut l'enseigner aux jeunes, plaide encore Tan Nien, alors que Pékin fait aussi pression sur Hanoï pour cesser l'exploitation pétrolière et gazière dans des eaux que la Chine considère comme sienne. Pékin conteste également l'accès des pêcheurs vietnamiens au Paracel, explique le Wall Street Journal, un archipel situé à équidistance des côtes chinoises et vietnamiennes en mer de Chine méridionale. Cette mer est une voie de communication essentielle pour le commerce mondial, mais aussi une route de ravitaillement vitale pour les États-Unis en cas de conflit autour de Taïwan. La Chine y a déjà fortifié des îles, des récifs, elle y déploie des navires et des avions pendant de longues périodes et le Vietnam en fait autant, analyse CNN et le Wall Street Journal. L'expansion des bases vietnamiennes en mer de Chine méridionale va renforcer la capacité de projection du Vietnam, confirme un expert au micro de la BBC. Les nouvelles îles artificielles sont capables d'accueillir de gros porteurs, de transporter des marchandises et des hommes qui pourront servir de force de dissuasion contre d'éventuelles agressions extérieures. Le Wall Street Journal note une relative indifférence de Pékin face à ces nouvelles îles artificielles vietnamiennes qui peut s'expliquer par les liens économiques et idéologiques entre les deux pays dirigés par des communistes.
En revanche, Pékin considère les Philippines, dont on parlait hier dans Culture Monde, alliés des États-Unis, comme un proxy.
Un mandataire de Washington dont Pékin refuse la présence en mer de Chine méridionale. Les États-Unis, qui ont condamné d'ailleurs la construction d'îles artificielles par la Chine, ne se sont pas publiquement prononcés contre les efforts du Vietnam, probablement parce que le Vietnam est considéré comme un rempart potentiel contre Pékin, analyse le Wall Street Journal. La mer de Chine méridionale, source de tensions fréquentes, le mois dernier, les Philippines ont accusé un navire chinois d'y avoir délibérément percuté l'un de leurs navires après l'avoir aspergé d'eau, comme le montre le réseau télévisé philippin ABS-CBN, près d'une île d'ailleurs qui fait partie des Spratleys où Pékin tente depuis des années donc d'affirmer sa souveraineté. La mer de Chine méridionale source également de nouvelles alliances. Les Philippines ont signé dimanche dernier un accord avec le Canada autorisant la venue de soldats sur leur territoire réciproque, détaille Radio-Canada. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, cité par le média chinois Guansha, faire étalage de sa force militaire et provoquer des confrontations sont préjudiciables à la paix et à la stabilité régionale.
La Chine, par ailleurs, accusée d'intervenir de plus en plus en Birmanie.
Et de faire durer la guerre civile en soutenant la junte au pouvoir qui fait tant souffrir la population birmane, accuse le média The Irrawaddy. La Birmanie déchirée par la guerre depuis 2021 avec des partisans pro-démocratie, des groupes rebelles ethniques qui contrôlent désormais de vastes régions de la Birmanie et qui espèrent faire chuter la junte. Des militaires soutenus par Pékin, affirme le Washington Post, alors que la Chine insiste pourtant sur sa politique de non-ingérence dans la Birmanie voisine. Pékin ne cherche qu'à garantir ses intérêts économiques notamment, avec d'immenses mines de terres rares, rappelle le Washington Post, très polluantes, j'en parlais ici même la semaine dernière. La Chine soutient désormais la tenue d'élections en Birmanie dès le mois prochain. La campagne a déjà commencé, note The Irrawaddy, mais ces élections organisées sous l'égide de l'armée ne seront ni libres ni équitables, prévient le Washington Post. Si vous avez la moindre question sur cette chronique sur l'actualité internationale, je vous rappelle l'adresse pour m'écrire, fcrdpi@radiofrance.com. Un ou une spécialiste vous répondra dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu, c'est noté, on vous écrit. Demain dans Culture Monde, on terminera cette série en 8 épisodes sur les inégalités, une colère universelle. On terminera avec le Pérou où les revendications, où les doléances exprimées dans les manifestations sont un petit peu différentes de celles dont on parle depuis le début. Alors il est aussi question de corruption comme partout, mais également des violences et de la question de la sécurité des Péruviens, des Péruviennes face aux crimes organisés.